Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, bienvenue à tous et à toutes. Un épisode où on va parler d'outils qu'on utilise au quotidien dans notre boulot de dev avec Alex. Et donc voilà, comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex, comment ça va ?
Salut Patrick, salut tout le monde. Bah ouais, on va parler de tools. C'est typiquement en fait les applications qu'on aime et qu'on utilise tous les jours. La plupart des devs en fait sont toujours à poncer, essayer de trouver l'outil qui permet d'aller encore plus vite ou de faire mieux tout. Et je pense que au-delà de tomber dans l'espèce de rat race où tu es toujours à la quête du meilleur outil, je pense qu'il faut bien gérer les outils qu'on utilise déjà. Mais en même temps, on est quand même obligé de regarder ce qui se fait à côté parce que ça évolue tellement vite et il y a des outils qui nous permettent de vraiment faire gagner de nous faire gagner du temps au quotidien. Et donc, c'est ce qu'on va partager aujourd'hui dans cet épisode-là. On peut déjà parler qu'on va parler... Nous deux, on est sur Mac, mais...
Il faut préciser, c'est clair.
Ouais, voilà, donc il y a quand même pas mal d'outils qui sont sur Mac. Néanmoins, la plupart des outils sont multiplateformes.
Ouais.
Il y aura des outils payants, il y aura des outils gratuits ou des versions freemium. On mettra de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode. Transparence totale aussi, il y a des liens qui sont affiliés. Donc, potentiellement, si vous cliquez, on pourra gagner quelques centimes sur le lien. Par contre, si on les a mis dans cet épisode-là, c'est parce qu'on les utilise et c'est parce qu'on les aime. Donc, on n'a pas été payé par ces boîtes pour nous.
Il y en a quelques-uns, mais pas tous.
Exactement. Donc, exactement. Voilà, mais pour le coup, il y a quand même des coups de cœur qui fait que des applications qu'on aime vraiment et qu'on utilise vraiment au quotidien.
Ouais. De toute façon, on a besoin d'outils dans notre boulot tous les jours. Parce que, comme tu dis, les développeurs, on est des gros feignants et on essaie toujours de faire moins possible.
Bah ouais, c'est normal.
Donc on essaie de trouver des outils qui font tout seul. Bon, avec l'IA, ça semble arriver. Bientôt, on va même plus connaître.
Non, moi, je suis quand même confiant. Je suis de plus en plus confiant, en fait. Pour nous, tu vois, l'IA, ça va être... c'est des catalyseurs, quoi. Ça va aller encore plus vite.
Ouais, pour un aparté vite fait, mais hier j'étais en train de coder et j'utilise super Maven hein, et il m'a sorti un truc mais venu de l'espace. D'ailleurs, j'ai mis sur Twitter, je crois. Il m'a mis un event listener sur un
sweep event. Left.
Ouais, un sweep left. Il a inventé un nouvel. Alors, ça serait génial si ça existait.
Ouais, ça serait trop bien.
Mais tu vois, le truc comme quoi, des fois, il te sort des trucs, tu te dis, mais d'où ça sort ?
Ouais, mais le pire, c'est que moi, ce que j'adore, c'est qu'il te le dit avec un aplomb en mode...
Ah ouais,
c'est sûr, c'est ça. Vas-y, fais ça, bien sûr.
Il m'a sorti deux fois d'affilée sûr de lui, quoi.
Ouais. Pas un pet de jeu, quoi. Donc, non, c'est bon. Allez, on attaque tout de suite. Premier outil qu'on utilise, je pense qu'on l'utilise tous les deux, c'est notre terminal. Alors, il y a possibilité de le tweaker dans tous les sens, mais c'est Warp. Moi, ce qui m'a vraiment plu sur cette application, sur ce logiciel-là, c'est qu'en fait, t'as toujours, c'est tout stacké en bas, en fait. Tu vois, contrairement au terminal, parfois, où c'est un peu bizarre. Donc, tu as une navigation où tu peux remonter sur tes commandes, tu peux naviguer sur tes commandes, tu peux mettre des bookmarks. Je suis gros, gros fan de ça, quoi.
Ouais, il n'existe pas depuis pas très longtemps. Je crois que ça doit faire 2 ans, un truc comme ça. Ouais. C'était assez étonnant qu'ils te sortent un nouveau terminal, parce qu'ils n'en sortent pas tous les jours. Celui-là, d'ailleurs, tiens, tu fais bien de montrer, il est dispo sur Mac, Linux et Windows, donc il est vraiment multiplateforme. Le truc au niveau de lui, c'est cette façon de toujours rester en bas au niveau de la commande, et après, tout s'affiche au-dessus. Et après, celui-là, il est très puissant. Alors perso, c'est comme Excel, tu vois, j'utilise que 10% de Warp.
Ouais, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure en aparté. Je pense qu'on est bien loin d'utiliser toute la puissance de l'outil. Et pour le coup, il faudrait vraiment poncer un petit peu plus la doc et tester pour voir en fait et utiliser vraiment toute la puissance parce que Ouais, je pense que c'est pareil, j'utilise que trop peu cet outil-là, quoi. Mais en tout cas, tu vois, moi, je l'utilise beaucoup sur les workspaces. Tu vois, je me suis fait des workspaces par client, en fait. Et bah, j'ouvre mon terminal, je fais ma commande pour ouvrir mon workspace client et j'ai tout mon environnement qui est prêt, quoi. Donc, j'ai mon VS Code qui est ouvert. Et donc, tu es directement dans le bon répertoire, tout. Donc, ça, c'est assez confort pour naviguer d'un client à l'autre. Bah, tu as tout ton environnement qui est prêt, quoi. Top.
Il a de l'IA dedans. Donc, il y a une version freemium. Moi, perso, j'ai jamais payé pour l'utiliser. Tu es limité, je crois, à 100 requêtes, je sais plus, peut-être par mois ou par je sais pas combien. Après, il y a une version premium, évidemment. Donc, tu as de l'IA qui te suggère des commandes, etc. Je sais que tu peux sauver des commandes aussi. Donc, ils appellent ça des workflows. Tu peux mettre une sorte de bookmark de workflow. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Ah ouais, au niveau style aussi, il y a des thèmes différents. Voilà, il est basé sur Rust de mémoire, si je ne me trompe pas. Donc, il est plutôt light. Il fait pas monter ton CPU, tout ça.
Ouais, il n'est pas
Non,
gourmand en CPU. Ouais.
il est cool celui-là. Moi, j'aime bien. C'est mon petit préféré.
Non, pour l'instant, moi, en tout cas, je suis pas prêt de bouger sur autre chose, quoi. Non, clairement.
Warp.
Yes, warp. Allez, on reste dans le terminal. C'est un module qui s'appelle HTTPy. En fait, tout simplement, c'est un substitut de curl. Donc de curl ou de wget. Moi, ce que j'aime beaucoup sur cette ligne de commande, je l'utilise beaucoup pour tester en fait mes API quand je vais faire une API REST par exemple. Bah, je vais faire HTTP POST, je vais mettre mon 2.3000. Il va automatiquement interpréter que c'est du localhost parce que je suis en localhost. Et derrière, je vais pouvoir passer plein de paramètres dans le header ou dans le body de mon post sans pour autant mettre les accolades, les guillemets, les double quotes, les simple quotes, les égales et tout ça. Je vais respecter une convention de nommage. Alors, ça nécessite un petit peu un apprentissage que les choses soient claires, mais ça permet en fait d'être ultra rapide et je vais avoir une réponse qui est formalisée et stylisée avec les couleurs qui est prettier, enfin pretty print quoi, tu vois. Donc il va y avoir des retours à la ligne ou des choses comme ça. Donc c'est
C'est pas mal.
hyper facile à lire, c'est facile à installer parce que bah, on utilise Brew ou APT, Pipe, enfin ce qu'on veut. Donc c'est vraiment
Donc dispo sur
multi.
Linux, si je vois
Et
APT, tout ça. Ah ouais,
exactement, c'est vraiment
d'accord.
multi-plateforme et la prise en main en fait est ultra ultra rapide. Par exemple, voilà, pour passer un token dans les headers, en fait on va juste mettre deux points. Ça va être interprété en tant que header et le égal va être interprété comme JSON, vraiment en JSON dans les data du post par exemple. Et donc c'est hyper facile à écrire, ça va très très vite et la formation se fait en 2-2 quoi. Et pareil, si tu veux soumettre un formulaire ou tester des choses comme ça se fait et
Tiret F, je vois.
exactement.
Ouais.
Pour
Ah,
le
c'est pas
coup,
mal, hein?
moi je suis vraiment gros fan de ça pour tester, pour pinguer vite fait. Et la courbe d'apprentissage se fait ultra ultra rapidement. En 3 minutes, on a écrit la doc et puis enfin on a lu la doc et ça correspond à des choses ultra rapides. Ça commence à être un petit peu plus compliqué quand dans ton payload, en fait, tu as des objets dans des objets, dans des tableaux. Voilà, là,
Ouais,
ça
c'est
commence à un
bien
petit
lisible.
peu plus compliqué. Là, c'est un peu plus compliqué.
Ah,
Là,
c'est
pour
pas
le
mal.
coup, il faut passer sur un client, on va dire. Requête Insomnia ou on va peut-être voir après autre chose mais qui est un ou
Ok.
Postman ou
Bah
des trucs
écoute,
comme
t'en
ça.
parles souvent de celui-là et c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de l'installer. Bah, je vais l'installer là, tu vois. Je vais
Ouais,
l'utiliser
test,
parce que c'est vrai
test.
que c'est quand même vachement plus simple qu'un appel curl ou truc comme ça où il faut faire des.
Ouais,
Bah, tu
c'est
te souviens jamais des trucs en fait à mettre en fait des accolades machin tout ça. Donc
exactement.
ok.
Et tu
Bah,
passes plus
je
tu
vais
passes
l'installer.
Tu passes plus de temps à corriger ta syntaxe qu'à vraiment tester ton truc, quoi, tu vois.
Ouais, c'est clair. Ok, HTTP.
Yes.
Nickel.
Alors, pour les utilisateurs de Mac, il est important de garder toujours la dernière version de nos logiciels pour faire les mises à jour de sécurité et tout ça. Et donc, il existe soit la version classique de sur Mac,
App Store.
De l'App Store. Sauf que souvent, on a des applications qui sont installées via des package managers tiers. Je pense à Homebrew.
Ouais.
Et en fait, bah, pour faire toutes ces mises à jour, il existe un petit logiciel qui s'appelle la Latest. Donc, il n'y a pas plus simple comme nom, quoi. C'est pour avoir la dernière version. Et ça vient scanner tous tes applicatifs, donc du Mac Store, enfin de l'Apple Store, mais aussi de Homebrew. Et ça te permet en fait d'installer en one click toutes les applications. C'est full open source. Par contre, c'est que sur Mac. Mais ça marche plutôt bien. Perso, moi j'ai ma petite routine, tu vois, pour en fin de semaine pour faire mes mises à jour, pour avoir ta machine un peu clean, quoi.
Ouais. D'accord. Je crois que pour le coup Warp, il me semble que c'est pas dans l'App Store. Tu le télécharges directement sur le site ou un truc comme ça. Donc ça veut dire que il est capable de voir que Warp il est pas à jour, il va le mettre à jour en fait, c'est ça. Il est capable de détecter tout ce qui n'est pas à jour.
Oui.
D'accord.
C'est en fait, par contre, il faut que tu aies installé Wrap. Wrap avec Homebrew. Si tu l'as installé via ta commande curl ou je sais pas quoi, et ben là il pourra pas le détecter. Mais si tu le passes pas, si tu l'as installé via Homebrew, alors il pourra être mis à jour via. En tout cas, tu pourras détecter la mise à jour d'une nouvelle version via ce logiciel-là.
Ok, bah c'est cool, je vais tester aussi ça. Tiens.
Par contre, c'est que pour Mac, quoi. C'est que pour Mac.
Bon, ça va, pour moi ça va. Pour les autres qui ne sont pas sur Mac, désolé.
Ça, c'est l'outil qui, pour moi, en fait, est juste indispensable. Je ne pourrais pas bosser sans Recast. Je ne sais pas si tu es passé sur Recast, toi, ou pas.
J'ai Recast, j'avais avant, comment il s'appelait ?
Alfred.
Alfred, après je suis passé sur Recast, et puis... Après, alors, moi, tu l'utilises certainement plus que moi. Tu as dû créer plein de trucs, des scripts, des commandes.
Oui.
Moi, je n'ai pas pris le temps d'en créer. J'en ai créé 2-3, mais voilà, je l'utilise toujours à peu près pour les mêmes choses. Générer des textes, lorem ipsum, des trucs comme ça.
Ah ouais.
Ok. Après, il y a des choses qui ne marchent pas très bien, je trouve, comme la traduction. Je trouve que ça marche très bien.
Voilà, non, mais la traduction, j'ai autre chose pour toi, Patrick.
Voilà.
Je te jure. Attends un petit peu, j'ai autre chose.
Mais sinon, c'est pas mal. C'est vrai que sur Mac, c'est vraiment l'outil. Enfin, c'est ce qui manque en fait sur Mac.
Ouais, c'est vraiment en fait une palette de commandes. Donc voilà, là, on la voit tout de suite. Moi, je me suis mis mon petit raccourci qui va bien. Et en fait, tu vas pouvoir faire. Plein de choses. Mais c'est tellement vaste tout ce que tu peux faire que c'est hyper difficile d'expliquer vraiment. Donc, on va commencer par des choses basiques. C'est une commande palette qu'on peut voir. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant ce genre de composants. Et tu vas pouvoir lancer toutes tes applications déjà là-dedans. Donc, moi, j'ai quasiment supprimé mon doc parce que je n'utilise que ça pour lancer les applications. Donc, j'ai ma commande au clavier, je tape le nom de l'application et je la lance. OK, super bien. Mais je vais pouvoir aussi lancer des sites Internet. Je me suis mis des raccourcis sur des sites Internet où je vais tout le temps. Et en fait, par exemple, si je vais sur le site de Nuxt, bah, là, j'ai Nuxt UI, une module Nuxt UI. J'ai mis des raccourcis pour aller encore plus vite. Je peux faire la même chose sur les recherches de Google. Donc, je peux, en fait, au lieu d'aller dans mon navigateur, de lancer ma recherche, là, je vais directement taper ma requête Google et ça va ouvrir mon navigateur par défaut et ça va lancer la page de recherche. Donc, ça, c'est vraiment le béaba. Mais derrière, là où ils ont été super forts, c'est qu'ils ont en fait créé tout un système en fait pour les développeurs et ils ont fait une sorte de store qui te permet en fait de rajouter plein de possibilités et il y a plein de fonctions qui ont été mises en place. Là, on va juste vraiment caresser la surface de ce qui est possible. Mais Package Manager, NPM, tu vas chercher ton package pour voir en fait la dernière mise à jour ou la version ou des choses comme ça. Tu vas avoir, pour killer tous tes process, des color pickers. Tu vas pouvoir gérer ton Spotify. Tu vas pouvoir faire ton Google Translate via ton Recast. Il y a toute une surcouche IA qu'ils ont mis aussi. Tu vas pouvoir faire la gestion de tes homebrew directement depuis ton Recast. Notion, Obsidian, enfin... Il faut aller voir, parce que tellement que c'est abyssal, tout le potentiel qu'ils ont fait. C'est ultra, ultra, ultra puissant. Perso, c'est... quand j'arrive sur un ordi où il n'y a pas Recast, le premier truc, c'est je fais mon petit raccourci, là, et en fait, ça ne marche pas. Et je dis, ah, mais non, mais là, c'est pas possible, quoi. Et non, pour le coup, j'utilise beaucoup aussi sur les timestamps, pour créer des dates au bon format, donc soit des formats timestamp, soit des formats ISO classiques, voilà, pour générer des dates un peu à la volée, vite très rapide. Pareil pour tout ce qui est, j'utilise pas mal sur la génération de UUID, tu vois, quand tu as besoin de faire un truc très très rapide, tu vas pouvoir générer des UUID propres. Et pareil sur les bases 64, tu vois, si tu veux convertir ou encoder ou décoder en base 64, bam, tu le fais directement avec Recast et ça te fait gagner du temps au lieu d'ouvrir une session quelque part, de lancer ta ligne, tout. Là, tu le fais directement. Je suis fan. Je ne peux pas travailler sans.
On a compris.
C'est clair. Allez, outil suivant. Polypan.
Polypan. Polypan. Alors, je suis passé sur Polypan il n'y a pas longtemps.
C'est bien, Patrick, c'est bien.
Alors, parce que j'étais un fan de Sisi de la première heure.
Ah ouais,
était, donc, en gros, Polypan, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un outil, c'est un navigateur. Enfin, ce n'est pas vraiment un navigateur, on va dire. C'est un logiciel qui vous ouvre des fenêtres de navigateur avec différentes tailles, etc. Donc, c'est vraiment pour faire du développement. Responsive, déjà on peut avoir différentes tailles, on a plein d'utilitaires en fait pour développer comment dire, émuler des choses, le touch, des trucs comme ça, enfin plein de choses, les langues, enfin il y a vraiment plein de possibilités. Donc Sisi, c'était à peu près l'équivalent qui était sorti ailleurs avant d'ailleurs, et moi j'aimais bien Sisi, puis Polypan au début il était pas aussi bien. J'ai utilisé Sisi pendant quelques années. Et Sisi, j'ai l'impression que petit à petit, il est abandonné. Il y a plein de bugs, etc. J'ai l'impression qu'il s'en occupe moins. Donc, j'ai décidé de passer sur Polypan il y a en mois d'août. Là. Voilà.
Yes.
et il est pas mal. Il a bien évolué. Il marche pas mal. Là, en ce moment, je l'utilise quasiment tout le temps, en fait, puisque je fais des sites en différentes tailles. Et ouais, franchement, super.
Après, ouais. Quand on doit gérer du responsive, le fait d'avoir tout sur... Un seul logiciel, toutes les versions d'écran en simultané. Ouais. Et en fait, le fait de scroller sur un device, ça va synchroniser le scroll sur toutes les tailles. Donc en fait, d'un seul coup d'œil, tu vas voir en fait tous tes écrans qui sont affichés. Ça, c'est vraiment la fonction première de Polypan. Par contre, il est allé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin parce que, comme tu dis, il y a le touch, il y a, tu vas pouvoir émuler des machines avec les agents et tout ça. Ouais. Évidemment, tu as tout ce qui est DevTools à l'intérieur. Donc,
tu peux mettre
React,
des extensions
exactement,
qui sont compatibles. Hein, donc,
ton React, ouais. DevTools, ton Vue, ton Redux et tout ça. Un autre truc que j'aime bien aussi, c'est qu'il fait l'interprétation... tu sais, de toutes les cartes, en fait, comment ça va, comment ton lien, comment cette page va être représentée au moment où tu vas partager ton lien. Donc, ton titre, ouais. Ta métadescription, mais aussi ton image pour les réseaux sociaux, les choses comme ça.
Tu as toute beaucoup de choses.
Ouais, très... social media preview.
Social media, ouais, c'est ça.
Et tu as aussi toute cette notion d'accessibilité où tu vas pouvoir tester en fait en live ton accessibilité. Et la dernière fonction qui moi je trouvais super intéressant, c'est que là tu vas pouvoir en fait synchroniser via ce qu'il appelle le portal. En fait, c'est un outil qui va synchroniser via ton vrai navigateur. Donc en clair, tu vas avoir Chrome, Firefox et Safari d'ouvert. Et tu vas installer tes liens et tout. Et lui, en fait, il va synchroniser. Donc il va faire la même chose qu'il fait sur la taille d'écran. Mais là, il va le faire sur les navigateurs spécifiques. Et donc, en fait, tu vas pouvoir tester dans les vraies conditions en fait, du navigateur.
Non, j'ai jamais essayé ça encore.
Ouais.
Tu vois,
ben ouais, parce que tu vois, Firefox ou Chrome, parfois, il y a quand même des différences. Donc, tu es obligé en fait, de tester et tu peux vite passer des heures à tester toutes ces possibilités-là.
Ouais,
et donc, en fait, Polypan te fait gagner un temps de maboule là-dessus, quoi. Vraiment.
Ouais, ouais. En fait, ça va plus loin. Tiens, pour dire vite fait en aparté, par rapport au fait que Safari, Firefox et tout, il n'y a pas très longtemps, j'avais une différence de hauteur de bouton pour un client.
Wow.
Et il a fallu trouver pourquoi dans Firefox, Chrome et Safari, je n'avais pas la même hauteur, etc. Enfin bref, c'était une histoire d'interprétation de bordure que je n'avais pas déterminée. Et en fait, chaque navigateur mettait la bordure qu'il voulait. Et puis, bon voilà, bref, tu vois, comme quoi il faut vraiment tester sur multi-navigateurs. Et en plus, le client avait Firefox, truc improbable.
Ouais, c'est plutôt rare maintenant.
Ouais, c'est clair. Ouais, Polypan, en fait... là, j'entends déjà des auditeurs qui disent ouais, mais attends, je peux le faire ça dans Chrome, machin, je m'en fous, j'ai le truc simulateur. Non, non, ça va beaucoup plus loin que ça, clairement. parce qu'en fait, celui-là est payant, hein. Il n'est pas gratuit. Il y a une version d'essai de 30 jours, je crois.
Ouais.
Donc ça permet quand même de se faire la main, de voir si
14, mais. Ouais. Ou pas.
14.
Ouais, ouais, je sais pas.
Mais après, c'est payant, d'un certain prix quand même. Mais c'est très utile, ça va plus loin que le DevTools de Chrome. Et exemple aussi, par exemple, là, il y a en août, j'ai développé une sorte de jeu de quiz là, qui était spécifiquement pour un écran 1920, tu vois, sur 1080, je crois. Et en fait, voilà, mon Mac, il fait pas 1920 de large. Et en fait, sur Polypan, tu peux dézoomer en fait, donc régler à 1920 tout ça, dézoomer, et t'as ton écran qui s'affiche comme tu dois, avec la bonne taille, quoi, dans un écran plus petit et sur Mac, quoi, tu vois. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont hyper pratiques.
Clairement. Et tu vois, pour moi, un dev front vraiment qui veut tester sur toutes ces plateformes, un outil comme ça, ça me paraît difficile de faire de l'intégration propre testée sans passer par des outils comme ça. Ou alors, tu fais pas de test et comme ça tu t'en fous et t'as pas de problème.
Si, t'auras des problèmes.
Oui, plus tard. Si. Ou alors, en fait, tu testes sur tout navigateur, tout, et là tu vas y passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Là,
ouais.
Franchement, si vous faites du front, testez Polypan. Moi, je trouve ça vaut vraiment le coup, quoi. On passe sur les dark mode et tout ça, quoi. C'est bien plus poussé que ça. C'est vraiment bien plus poussé. Allez, on déroule.
Allez, go.
Parce que on sait très bien que la doc, on peut pas faire sans la doc. La doc, c'est clé. Là, c'est un outil qui nous permet en fait de stocker en offline pas mal de docs. Et spoiler alert, on peut le synchroniser avec Recast ou n'importe quoi. Donc en fait, depuis Recast, en fait, tu viens lancer ta commande et tu vas faire ta recherche de doc dans Redis et là, tu vas taper set et là, tu arrives directement dans la doc de Redis. Tout ça en offline. C'est super, super, super pratique et super rapide.
Et comment tu fais pour charger les docs? C'est directement dedans ou tu vas chercher la doc et tu la
télécharges? Alors en fait, tu vas installer l'app. Après, tu vas décider quel doc tu viens rapatrier en local sur ta machine. Et quand tu l'ouvres, en fait, il te dit « Hey, il y a une mise à jour de cette documentation, tu veux la synchroniser ?» Okay. Ouais. Et ça se fait automatiquement. Et objectivement, souvent, on utilise toujours les mêmes docs. Tu vois, si tu es développeur PHP, tu vas mettre la doc de PHP. Si tu es JS, tu vas faire la doc de Node et de JavaScript. Si tu fais du Vue, machin, tout ça. Donc, tu sais, en fait, qu'est-ce que tu utilises au quotidien. Donc, tu le synchronises et tu l'as en local. Et pour ceux qui ont l'habitude de coder dans le train, parfois, ça peut sauver quand même pas mal la vie.
C'est clair. Ça, c'est que sur Mac, par contre. Hein.
Ouais,
alors,
c'est
on
que
a pas
sur
dit,
Mac.
Polypan, on n'a pas dit, c'est dispo sur tout, je crois, multiplateforme, il me semble.
Ouais, exact.
Et la Dash, c'est sur Mac. Mais oui, t'as raison. Dans le train, là, souvent, ou l'avion même, hein, si tu prends l'avion. Quoi,
ouais, c'est encore pire. Ouais, carrément.
Pas de réseau, bah, tu peux quand même consulter ad hoc et continuer à bosser en local. Quoi.
Yes. Autre solution, alors toujours pour ceux qui sont sur Mac, il faut savoir que Dash est payante, c'est une appli qui est payante, tu peux l'acheter directement à elle seule. Il y a un nouveau modèle qui est un peu qui est sorti, qui est en train de... Il y a de plus en plus de monde dessus, en tout cas. Tout le monde, tous les développeurs ne sont pas d'accord, mais c'est un peu le Netflix des applications sur Mac, ça s'appelle Setup. Et il y a un panel d'applications sur lequel tu as accès à Atlife tant que tu payes ton abonnement de $10 par mois. Il y a quand même beaucoup d'applications pour les devs. Par contre, c'est que sur Mac, hein, on est complètement d'accord. Mais il y a quand même des trucs pas mal, aussi bien pour du multimédia que pour du dev. Vous pouvez aller regarder, ça vaut le coup. Il y a quand même 3-4 applis qui valent vraiment le coup. Je pense surtout pour Clean My Mac. Je ne sais pas si tu utilises ça ou pas pour nettoyer ton Mac. Bon, c'est que pour Mac, c'est un système d'abonnement. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais il y a pas mal d'outils pour les devs, donc à réfléchir.
Quand tu payes les $10, tu as aussi les apps mobiles, parce que j'ai vu qu'il y avait des
écrans
mobiles.
En fait, deux. Ouais, exactement. Et en fait, maintenant, je sais pas si tu vois, on a vu un peu le drama qu'il y a eu avec l'Apple Store, qui voulait, voilà, ces quelques mois ont été compliqués avec l'Europe et l'Apple Store. Donc maintenant, ils sont obligés en fait d'ouvrir l'Apple Store, en tout cas d'ouvrir des stores tiers à l'app mobile. Et donc cette app est sur le sujet depuis très longtemps. Et donc en fait, tu peux pousser ton app chez eux et ils utilisent un store alternatif. Donc, et tu peux installer directement des applications mobiles sur ton téléphone depuis ton abonnement Setup. Ouais. Okay. Donc, voilà, c'est un peu particulier. C'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas en raccord avec ça.
Ouais,
mais ça existe. Perso, moi, j'utilise pas mal de logiciels.
Après, c'est un calcul, quoi. C'est un calcul à faire en fonction de ce que tu utilises, tout ça. Après, c'est sûr qu'il y a aussi une notion de... Est-ce que c'est un usage perso ? Alors, c'est sûr que $10, bon, perso, peut-être, les gens vont un petit peu... ça fait beaucoup. Après, quand c'est un usage pro, comme nous, on l'a, $10, voilà, on le passe en frais, et puis c'est parti, quoi. Donc, c'est tout un calcul. Ça dépend le cas, quoi.
Ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais il y a quand même pas mal de logiciels qui, pour moi, valent le coup. Dont ce logiciel-là qui, pour le coup, je pense qu'on utilise tous des bases de données en tant que bon développeur, Table Plus. Ça nous permet en fait de gérer, d'administrer nos bases de données depuis notre logiciel. Donc certains sont plutôt familiarisés avec PHP, MyAdmin ou des choses comme ça.
Rigole, c'est pas pareil. Mais c'est pourri, PHP MyAdmin.
Exactement. Là, on va aller beaucoup, 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 beaucoup plus loin. Ça va gérer beaucoup plus de bases de données. Tu vas pouvoir visualiser. C'est multiplateforme. Et pour le coup, c'est inclus dans l'abonnement Setup. Il y a Table Plus qui est intégré.
Oui, il y a une version freemium, je crois, en Table Plus.
Ouais. Par contre, tu peux n'avoir que deux tables d'ouvertes.
Ouais, c'est ça, il y a des limitations. Ouais. Alors, moi, je n'utilise pas trop celui-là. La dernière fois, je me suis fait avoir, vous allez vous marrer. Mais...
Pourquoi
parce que j'étais sur une table, j'essayais de mettre à jour des datas. Et puis, je ne comprenais pas, ça ne sauvait pas. Et en fait, j'ai compris qu'après, il fallait committer ou je ne sais pas quoi. En haut, il y a un bouton. Non, c'est ça. Je sais plus. Moi, je suis habitué à un autre truc où tu changes direct, ça sauve. Et puis là, je modifiais la ligne et puis ça ne sauvait pas, je ne comprenais pas. Et j'ai cherché pendant 5 minutes.
En fait,
minutes,
non, il faut faire l'action de sauvegarder.
C'est ça, voilà.
et donc, c'est tout con, mais si tu ne le sais pas, en fait.
Mais quand tu ne le sais pas, tu dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi ça ne sauve pas Voilà, truc marrant, quoi.
Et pour le coup, ils utilisent même des bases de données un peu dites modernes. Tu vois, je pense à ClickHouse et Turso, qui est du SQLite sur le Edge. Voilà, c'est déjà en place. Ça marche plutôt bien. Moi, c'est l'outil que j'utilise tous les jours. Hein. C'est pour tester tout.
Ouais, ouais.
Et moi, je suis rentré dans une période là où je suis devenu full DB, où en fait, tu te rends compte que tu as beaucoup de code que tu exécutes en back-end, je pense, que tu exécutes, mais en fait, tu pourrais le faire en SQL directement, quoi. Donc, je suis tombé dans le truc des triggers, des fonctions dans Postgre, là. Et ouais. Mais c'est super puissant, ce truc. C'est ouf, quoi. Mmh. Donc, ouais, c'est devenu mon outil, bibiche, quoi, vraiment.
Ouais, de toute façon, c'est sous-estimé. Postgre est très puissant. J'avais déjà vu une conf il y a déjà quelques années de quelqu'un qui disait... Qui faisait de l'authentification, tout en fait, avec une couche sur Postgre. Voilà, la base est capable de gérer énormément de choses. On l'utilise vraiment pas toute la puissance de Postgre. Quoi.
Ouais.
Mais bon, ce sera le sujet d'un autre épisode.
Yes. Et autre chose que tu utilises plus, qui est.
Ah, c'est celui-là, j'utilise depuis super longtemps.
Ok.
Alors, le truc, c'est que pour l'épisode, j'ai regardé la dernière mise à jour, elle date un peu, en fait. En fait, le truc n'est plus du tout mis à jour. Donc, bon, c'est dommage. Mais il est beaucoup plus simple que Tabel Plus. Je l'aimais bien, il était chouette. Donc, il est toujours téléchargeable et utilisable, hein, sans problème.
Mais il est payant.
Trop de mise à jour. Non, il est gratos.
Ah,
c'est pour ça qu'il est cool. Je pense, tu vois, il y a un donate, je pense que les gens ne donnaient pas assez. Donc le mec, il a arrêté.
Ouais.
Mais non, il est cool. C'est une version plus simple que Tabel Plus. Mais voilà, moi aussi, je suis en train de passer sur Tabel Plus parce que justement, celui-là, il n'est plus trop maintenu. Et voilà, Tabel Plus est quand même un peu plus complet. Voilà.
Yes. Allez, on va parler camion et FTP.
Camion. Alors FTP, alors évidemment, l'FTP, on ne travaille pas directement sur le serveur. Je répète, ne travaillez jamais directement sur le serveur.
Je
ça
répète.
Se fait pas, hein. Ceux qui le font, c'est une mauvaise idée.
Les mises à jour WordPress directement sur la prod en live, attention, c'est dangereux. Ne faites pas ça à la maison.
Ouais, mais parfois tu as besoin d'un client FTP pour aller vérifier sur le serveur les fichiers, tout ça, ou voilà, supprimer un truc. Enfin, il y a toujours besoin à un moment donné d'un FTP ou même de charger des fichiers autres, des PDF ou n'importe quoi. Donc Transmit, c'est que sur Mac celui-là. Ça fait partie des logiciels un petit peu qui existent depuis toujours, j'ai envie de dire, presque.
Ouais, ouais, ça fait très 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 longtemps que j'ai ça aussi. Ouais, et pour le coup, tu vois, j'ai acheté la licence il y a très très longtemps.
Ouais, pareil.
Et pour le coup, aujourd'hui, moi je l'utilise beaucoup pour gérer en fait les objets S3. En fait, ouais. sur les buckets. Alors, OK, il y a du FTP, il y a du SFTP, évidemment, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Tu peux mettre tes Google Drive, tu peux mettre tes OneDrive, tu peux mettre toutes tes Dropbox, tes Backbase et tout, mais tu peux aussi mettre tes objets S3. Et en fait, ça, c'est plutôt intéressant parce que, en fait, d'avoir une interface graphique pour gérer en fait tes objets, tes documents S3, c'est super bien. Et aujourd'hui, la majorité de mon utilisation s'est fait avec des storage, enfin S3 ou compatible ouais. S3 quoi. Mais ouais, donc non, c'est top. Et moi, je suis gros fan de la fonction synchro. Je sais pas si tu utilises ça ou pas.
Non. Non, non.
Ok. Et en fait, moi, je veux garder la synchronisation entre mon local et mon distant. Et donc, en
D'accord.
fait, je lance Transmit et je lui lance la synchronisation et ça fait tout seul. Et terminé. Merci. Okay. Au revoir. Et donc, ça, c'est plutôt bien.
D'accord, d'accord. Non, moi, j'utilise juste. J'ai des clients qui sont sur des serveurs multi. Comment on appelle ça? Des hébergements partagés, quoi. Mutualisé, voilà, sur certains sites. Donc, de temps en temps, j'utilise pour aller voir deux, trois trucs, si c'est bien en place, s'il y a, pas, il y a bien tel fichier ou tel fichier. Après, le déploiement, je ne le fais jamais directement via FTP. C'est en automatique. Mais non, très pratique. Je ne l'utilise pas tous les jours, mais presque, quoi, pour aller voir deux, trois trucs, comme ça. Beaucoup plus pratique que... Comment il s'appelle Z, l'autre, là, le open source.
Falzilla.
Ouais. Oh, le truc Falzilla. Des fois, j'ai des clients, ils me font voir. Attends, j'utilise Falzilla. Oh mon Dieu, le truc. Alors, il a le mérite d'exister, il est gratuit, tout ça, mais alors, waouh, ça n'a rien à voir. C'est hyper intuitif, tu glisses et déposes, ton truc, il est chargé, enfin bref, rien à voir.
Donc, même des vieux logiciels sont encore viables, et vu qu'on utilise encore ces vieilles techno, quoi. Mmh. Ouais. Bon, maintenant, ils font du jeu vidéo, je crois.
Ouais, ils font beaucoup de jeux vidéo maintenant. Ouais. Ils avaient aussi fait l'éditeur de code Coda. Coda. Mais ils en ont sorti un nouveau, il a changé de nom, je ne sais plus comment il s'appelle. Qui est sympa aussi, d'ailleurs Coda j'utilisais pendant longtemps avant d'avoir... Parce qu'à une époque, alors, on n'avait pas beaucoup d'éditeurs sur Mac, donc j'utilisais Coda. Bon maintenant on a plus de choix avec VS Code, tout ça, mais... Non, super.
Allez, un autre petit tool qu'on utilise, en tout cas que moi j'utilise beaucoup pour sortir du contexte, qui s'appelle Run.js. Qui est en fait tout simplement un exécuteur, un environnement de dev JavaScript directement où en fait on va taper notre code à gauche et on va voir le résultat à droite. Alors vous allez me dire oui, on peut faire ça depuis la console, on ouvre le DevTools dans notre navigateur et ça marche. Oui, c'est vrai. Là, l'avantage, c'est que c'est hyper rapide. Et moi, je l'utilise beaucoup pour en fait sortir mes fonctions. C'est-à-dire, je sors de mon VS Code et je me mets que dans mon contexte où là, OK, j'ai ma fonction qui va renvoyer ça et je vais tester plein de choses. Donc, pour itérer, pour découvrir, pour tester, pour jouer avec de la doc ou machin, c'est ultra rapide. Il y a un système d'onglets, donc tu peux ouvrir plusieurs fichiers en même temps. Tu peux charger des variables d'environnement, évidemment. Tu vas pouvoir charger aussi des NPM, donc des package manager. Et tu vas avoir à la fois le contexte de Node, donc côté serveur, mais aussi le côté browser, où en fait tu vas avoir toutes tes API qui sont disponibles. Donc c'est plutôt top. Et évidemment, évidemment, tu vas mettre du TypeScript directement. Donc t'es pas obligé de faire ton TSX et machin, tout. Ça va te le faire directement.
Ouais, il compile tout seul, ça c'est cool.
Ouais, exactement. Ouais. Donc, ça te fait vraiment gagner du temps et surtout, en fait, t'es contextualisé, tu vois. Alors, oui, pour ceux qui font que du dev JS, c'est quand même cool. Pour ceux qui font du JS que occasionnellement, bon, ça a moins d'intérêt. On est complètement d'accord. Tu vas retrouver, en fait, les petits trucs un peu sympas. Donc, c'est une version freemium.
D'accord.
Donc, tu as une version gratuite. Et si tu veux payer, tu as plus de fonctionnalités, dont le autocomplete, qui est plutôt sympa. Tu vas avoir le hover information, comme on peut avoir sur VS Code, où, en fait, quand tu passes ta souris, ça va te rappeler la doc et tout ça. Tu vas avoir tes informations sur ton linter.
D'accord.
La gestion de tes packages directement se fait via aussi la version payante. Tu peux avoir différents snippets, tout ça. Et ils ont mis une couche d'IA parce qu'aujourd'hui, on est obligé de mettre de l'IA. Pareil. Et je crois qu'il existe la même chose pour les développeurs en Python. Je crois que c'est la même personne qui a fait les deux environnements, quoi. Donc, alors moi perso, j'utilise Run.js, mais parce que je fais pas de Python.
Mais, ça s'appelle Run Python ou Run Py,
je sais plus exactement. On mettra les liens, mais ouais, c'est ça. Mais Run.js.
C'est pas mal, c'est pas mal.
Développeur JS, c'est plutôt pas mal. Mais il existe la même chose sur PHP ?
Un équivalent, Tinkerwell. Tinkerwell qui a été développé par l'équipe de Laravel, enfin une des personnes de Laravel. C'est pareil, c'est un système où tu vas écrire du code et il va t'interpréter directement. Tu peux taper directement dans la DB, etc. Donc ça peut marcher sur du Laravel, sur du WordPress, sur du PHP classique. Enfin, voilà. Pareil, tu écris ton code, tu testes, tu vois si ça marche, etc. Ça, voilà. C'est le même principe.
Ce qui t'évite en fait de lancer tout ton applicatif, tout, tu vois, si tu veux tester une fonction, moi je trouve ça.
Voilà, c'est vraiment pour du test ou taper dans une base pour voir combien d'utilisateurs, si tu récupères bien les utilisateurs que tu veux, si la fonction que tu utilises de Laravel, elle fait bien ce que tu veux, etc. Voilà, c'est plus simple que de faire un dump dans la dans le navigateur pour voir ce qui s'affiche, tout ça. Voilà. Là, c'est directement dans la console, donc c'est pas mal. Tu vois, c'est compatible Laravel, Symfony, WordPress, Magento. Enfin.
Tout l'écosystème PHP, quoi.
Ouais, et celui-là est payant aussi. Il n'y a pas de gratuit, je crois. C'est directement payant.
Ouais, c'est celui-là. Bah, c'est Laravel, quoi.
Ouais, je non, tu rigoles.
Je déconne. Oh, je te troll. Je te taquine. Allez, on sort un petit peu des outils pure dev, technico-dev. Souvent, on doit discuter avec nos clients. On doit échanger nos clients. Sauf qu'on a un client qui est sur Slack. Il y en a un qui utilise WhatsApp. L'autre, il utilise Google Chat. L'autre, il utilise Teams. L'autre, il utilise... Et en fait, on se retrouve avec une multitude d'applications. Et là, en fait, c'est un peu l'anneau de pouvoir tout concentré, quoi. C'est une application qui vient synchroniser tout.
Ouais.
Et ça s'appelle Beeper.
Ouais, je l'utilise à cause de toi. On peut le dire. Le gars m'a parlé de Beeper. Il m'a dit, ah, vas-y, j'utilise Beeper. J'ai installé. Et bah, effectivement, je l'utilise maintenant. Donc, ouais, comme tu dis, j'ai des clients qui sont sur Slack, tout ça. Donc, ça me permet d'éviter d'ouvrir Slack, le client, voilà. Qui ne marche pas forcément toujours bien. Et voilà, ça me permet d'avoir des WhatsApp, les Slack, t'as LinkedIn, t'as tout en fait.
Twitter.
Quasiment tout.
Ouais, Twitter. Tu peux tout synchroniser. Et ce qui est bien justement, c'est que bah, en fait, tout est synchronisé dans une seule et même application, ce qui t'évite d'avoir tout d'ouvert. Tout. C'est plutôt. Ça marche assez bien.
Et donc, ouais, c'est pas mal. C'est free ça. Hein ouais, je sais pas si c'est version payante.
C'est totalement free, ouais.
C'est multiplateforme. Alors, tiens, ça va te faire rire, mais regarde en haut ce qui a marqué. En fait, ça a été racheté par Automatic.
Ah.
C'est qui c'est Automatic?
Ouais, Automatic, c'est les mecs qui sont derrière WordPress, non?
C'est ça.
Ok.
Voilà.
Ouais, intéressant.
C'est assez récent, je crois.
Mais pour le coup, eux, Automatic, on en parlait dans le dernier épisode, mais ils sont plutôt... ils développent, ils sont plutôt du bon côté, non? Ou c'est les méchants?
Ah, eux, c'est... Non, c'est les gentils. Non,
c'est les gentils. J'adore cette version manichéenne.
C'est une société à part de WordPress qui développe des outils, tout ça, pour WordPress, en fait, dans l'écosystème. Mais c'est une société, c'est pas ouais. Open source ou une organisation. C'est vraiment une société à part qui fait du business. Nice. Et ils ont racheté Beeper il y a quelques temps. Je connaissais pas d'ailleurs, j'avais entendu parler. Tout le monde se demandait pourquoi ils avaient racheté ça. Ils avaient aussi racheté, comment il s'appelle le réseau social là, qui était à moitié mort, qu'ils ont racheté.
Blue Sky?
Non.
Non, je sais pas.
Moi, j'ai oublié, mais c'était une sorte de blog, tu sais, de l'époque, là, avec juste tu mettais une image, des trucs comme ça. Ah, j'ai oublié le nom.
Ouais, je sais pas.
Il y avait du porno à la fin.
Mais... ok, bon, peut-être que c'était.
Ils ont dû tout nettoyer, d'ailleurs. Ouais. Bon, bref.
Yes. Autre outil sympa que toi, tu utilises aussi. Bruno.
Ah ouais, complètement. Ah oui, Bruno. Bah oui, Bruno. Application super récente. Elle est vraiment pas vieille. On en avait parlé dans un épisode il y a quelques temps. Et en fait, on avait tous eu la problématique de Insomnia, qui c'était compliqué à mourir, qui était devenu moitié payant, moitié, on sait pas en fait.
Pareil sur Postman, tu vois.
Postman aussi.
Si tu payes pas, ça commence à être compliqué de l'utiliser, ou c'est des usines à gaz en fait. C'est voilà. Surtout ça le truc, c'est méga complexe quoi.
Et souvent, on a juste besoin de tester des requêtes, voir ce que ça répond, etc. On n'a pas besoin. Enfin, moi perso, j'ai pas besoin d'avoir un truc hyper complexe. Et Bruno est light, simple. Il sauve aussi des fichiers qui sont lisibles, que tu peux mettre en plus dans ton projet, à la racine. Donc tu gardes des traces, tout ça. Donc franchement, un super super outil. Et puis en plus, on a vu tout à l'heure qu'il y avait moi j'ai jamais utilisé, mais la CLI.
Exactement.
Ou la CLI. J'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient CLI. Alors moi, je vais dire CLI aussi.
CLI. Ok.
La Bruno CLI. Pareil, il y a une CLI que tu installes et tu peux faire des requêtes, machin, tout ça, sauver, jouer aussi tout plein de requêtes d'un coup. Enfin, il est assez puissant. Et c'est freemium. Enfin, la version free permet de faire beaucoup de choses déjà.
tu peux mettre des tests, mais moi, ce que je trouve vraiment, vraiment sympa, c'est que tu vas avoir un format de fichier donc, qui s'appelle des points bruts, mais ouais. Tu vas pouvoir le stocker à l'intérieur de ton projet. Et ça, en fait, ouais, mais ça, je trouve ouais. ça super bien parce que quand tu fais du collaboratif, bah, y en a un qui va travailler sur la requête et ça va se partager avec les autres. Alors oui, tu vas me dire que sur Insomnia et machin, tu peux faire la même chose, mais l'outil et on va dire le workflow de synchronisation, la plupart du temps, tu es obligé de payer. Et ouais. C'est beaucoup plus complexe. Là, en fait, c'est au sein de ton projet. C'est pas une usine à gaz, c'est simple. La config est ultra facile. C'est pas du tout verbeux, c'est hyper explicite. Le fichier point bruit, il est, tu peux le lire comme
ouais,
ça.
Parce
quoi.
Que tu vois, il donne l'exemple dans GitHub. Tu peux lire le fichier et voir ce qui a été changé. Donc.
Exactement. Et c'est donc, c'est, tu vois, c'est pas du tout verbeux avec plein de paramètres et tout. Hyper simple, facile et c'est en freemium aussi et c'est 19$. Donc, c'est pas non plus ouais, très cher. Quoi. Et c'est une équipe qui, pour le coup, il carbure. Quoi. Il bosse, il y a plein de nouvelles versions tout le temps.
Ouais. Ah, c'est cool. Bel outil.
Allez, on va s'attirer les foudres parce que beaucoup de personnes utilisent Docker. je pense que tous les bons devs utilisent Docker. Et sur Mac, on a un outil qui s'appelle Orb Stack. Ouais. Et pour le coup, on a switché tous les deux dessus parce que la vitesse, tout simplement.
Ouais, sur Mac, le client Docker est assez catastrophique, en fait, très gourmand en ressources, etc.
Très lent.
Et OrbStack, en fait, il solutionne tout ça. Je ne sais pas comment exactement, mais ça solutionne et ça permet de gérer des Docker sans en faire exploser l'ordi. Ça démarre vite, etc. Donc, ouais, top. Et une version. Alors, ça, c'est. En plus, il est dispo sur pas mal d'environnements maintenant, je crois. Hein. Il est sur Linux,
ah ouais
tout ça, je crois.
Ah, tu ouais, vois, il me semble, bah, hein. Pour le coup, j'ai été sans, si peut-être de connerie, mauvaise mais... foi, parce que je ne sais pas sur
une connerie, hein,
mais... Get Intel, je sais pas.
Ah bah non, j'ai une connerie, tu vois, c'est que Mac. Voilà, ça c'est fait. Parce que sur Linux, en fait, tu n'as pas de problème avec Docker, puisque c'est Docker, c'est Linux à la base, donc forcément.
Ok.
En tout cas, ouais, ça marche super bien. Ça permet de gérer plusieurs machines et c'est simple, c'est léger. Y a rien à dire. Alors, il y a une version payante. Normalement, si tu l'utilises professionnellement, tu dois payer. Et après, si tu l'utilises d'accord. personnellement, c'est gratuit. Voilà.
Donc, okay.
Chacun fait son choix.
Oui, chacun fait son choix.
Payer ou pas,
mais pour le coup, c'est vraiment bien. C'est ultra rapide. Moi, j'ai vraiment vu la différence.
Ah oui.
Et on n'est pas et ce qui est bien aussi c'est que tu vas utiliser en fait ça va mapper ça va te créer un réseau local et donc tu as des URL plutôt friendly oui. si tu veux tu vois donc c'est plutôt ça c'est vraiment bien c'est facile et pour ceux qui ne sont pas des DevOps purs, full terminal, tout ça, mine de rien, c'est quand même pas mal d'avoir une petite interface graphique pour gérer tout ça. Les puristes diront que c'est bullshit.
Sûrement.
Oui, les autres pourront tester et puis faire avoir leur propre avis sur...
Non, mais clairement sur Mac, ça change la vie. Ouais. Quand tu fais du Docker, ça change vraiment la vie.
Clairement. Allez.
Élèves.
D'élèves, autre environnement qui là pour le coup est un petit peu plus spécifique à l'environnement PHP d'élèves. Ouais. Moi je fais pas partie de ces développeurs PHP donc je connais pas ça. Quel est l'avantage de d'élèves?
En fait, ça te génère un environnement. Tu vas développer un site. En fait, c'est tout se trouve dans un point d'élèves dans ton projet. Et ça définit toutes les machines, tout ça. Donc, c'est basé sur Docker. Ça s'installe très rapidement. Ça va te lancer les machines, tout ça. Et en plus, avec OrbStack, ça marche super bien. Et tu vas lancer un environnement spécifique à ton à PHP ou à ton CMS parce qu'en fait, c'est déjà adapté sur certains CMS. Donc, il y a toute une liste de CMS. Et c'est aussi pour ça que j'utilise.
Qui sont out of the box.
Tu lances la machine, ça te fait l'environnement, le serveur, la base de données, etc. le SSL et c'est nickel. Et ça marche super bien. Tu arrêtes la machine quand tu en as plus besoin, tu la relances. Voilà, c'est vraiment très très pratique. La plupart des devs PHP sérieux travaillent avec ce genre d'outil. En tout cas, moi, la plupart des agences avec qui j'ai bossé, qui travaillaient sur du soit du craft, soit du typo ou des choses comme ça, utilisent des devs. Et du coup, c'est quand tu récupères le projet,
c'est vachement plus simple.
T'as déjà le point des devs dedans, tu lances la machine et ça marche direct en fait.
Ah ouais, ça c'est pas. C'est... J'aime bien parce que tu sais, le truc, non mais tous les PHP devs sérieux ils utilisent ça quoi. Les autres, c'est pas, pas ça. S'ils utilisent pas ça, c'est pas sérieux les gars. Non,
mais je vois pas comment tu peux faire en fait autrement. Êtes... Si après tu fais des Docker, des machines toi tout seul.
Vous êtes des amateurs si vous utilisez pas
non,
ça.
Non mais t'as ton Docker file et tout ça. Non, mais c'est qu'à un moment donné, si tu travailles en équipe, t'as besoin de partager le truc et voilà.
Bien
il faut
sûr.
Que...
Bien sûr.
En fait, avec ça, tu l'installes. Bah, dernièrement, j'ai fait un typo 3. Alors oui, je fais du typo 3, désolé. Je ne sais pas si les gens connaissent. Voilà, bref, il y a une agence avec qui je bosse qui en fait, donc bon, j'y peux rien. Je récupère le projet, il y a le point des devs, je lance DDDev start et ça me lance la machine, ça me développe, ça me monte tout et au bout de 2-3 minutes, tu as le site qui marche. Quoi.
Ouais. Ouais. Et là, je vois ça utilise Trafic pour faire ton mapping et ton routage et tout.
Ouais, t'as de la page dedans ou du Nginx, t'as du Trafic, tu peux mettre du Postgre, tu mets ce
et
que
donc,
tu veux en fait.
Parce qu'en plus, tu peux. Ok, donc potentiellement, tu peux configurer en mode bah, dans mon projet, j'ai un Redis, bah, hop, tu mets ton Redis là-dedans et en fait, ça vient popper ton projet, tout ton environnement de projet.
Ouais, Redis, j'ai jamais testé, je sais pas si ça le prend, mais j'imagine que oui. Et après, tu as aussi le système d'email. Ah ouais, j'ai pas dit aussi, tu as un système d'email. En fait, il capte ta mail hog, tout ça. Enfin, ah oui, Redis, tu vois, ça le fait. Et il y a aussi un système qui bloque, qui catch les emails. Donc, tu envoies un email de ton interface et il attrape les emails. Et tu lances un système de un client mail web là et tu regardes les emails qu'il a attrapé
top.
Tout ça. Non, tu as tout un environnement de développement qui est prêt et qui se lance en quelques minutes.
Excellent.
Vraiment vraiment top.
Top.
Et il y a CMS, si tu vas dans la doc, tu verras, il y a plein de CMS Drupal etc. Voilà. Donc,
nice. Allez, on bascule, on se devait de parler un petit peu d'IA dans cet épisode.
Parce le que point sinon, IA est réussi, c'est bon.
C'est ça, il est passé. Un outil qui, moi, je trouve hyper intéressant parce qu'il nous permet d'exécuter des modèles en local sur notre machine. Le projet s'appelle olama.com. Et ça marche sur multiplateforme. Windows, ils sont en preview, je crois. Mais Linux ou macOS, on va installer cette machine. Et pour tous les devs qui ont déjà commencé à jouer un peu avec des modèles, ça peut vite être compliqué de paramétrer ton environnement, tout. Là, pour le coup, tu vas installer Olama et tu vas chercher ton modèle que tu veux utiliser, que tu veux télécharger. Et lui, il va gérer tout seul et il va lancer ton modèle et il va te donner une API et après, t'en fais ce que tu veux. Donc, assez puissant. Et donc, ça part dans tous les sens sur les modèles. On fera un épisode dédié sur les modèles IA pour nous, développeurs, et comment vendre ça et comment utiliser ça. Mais un outil qui est plutôt pas mal et que moi, je suis complètement fan et je ne peux plus bosser sans, ça s'appelle Kerling. Et en fait, on parlait tout à l'heure d'une commande palette. Et bien là, en fait, ça va être exactement la même chose. Mais en fait, l'idée, c'est la commande palette dédiée à l'IA, mais dans tout notre contexte de notre application, dans tous nos applications, en fait, dans toute ma machine. Ce qui fait que le problème qu'on rencontre souvent, c'est quand on veut brancher l'IA à l'intérieur de notre application, bah, il va falloir coder au sein de l'application. Et là, en fait, on est au niveau machine. Donc, c'est là où ça va être super intéressant parce qu'on va pouvoir en fait, interférer directement dans n'importe quel contexte où on est. Ça passe. Et on va pouvoir utiliser n'importe quel modèle. Et donc, on va brancher en fait nos clés OpenIA, Anthropic, Google Gemini, Grok ou justement Olama pour utiliser en fait le modèle en local. Et ça passe directement.
Ouais, c'est vrai, ça.
Moi, j'utilise ça pour faire la traduction. Ça marche vraiment bien. J'utilise ça pour faire la correction orthographique Et je pense que Patrick peut attester que j'ai des problèmes d'orthographe. Donc,
non. Pas de commentaire. Sans commentaire.
Mais pour le coup, c'est vraiment hyper puissant. Tu peux mettre des prompts directement pour venir prendre ton texte. Donc, ça prend ton texte et tu viens lui rajouter une commande spécifique, ton prompt, que t'es venu sauvegarder. Donc, un gain de productivité de ma boule. Et maintenant, tu peux mettre des PDF ou des liens Internet et ça va chercher les informations de la page pour répondre. Enfin, c'est assez puissant.
Ouais, c'est pas mal. Ouais.
C'est assez puissant et moi j'utilise ça quasiment tous les jours pour corriger les fautes.
Il y a une version test ou
Tu as une version test de 7 jours, je crois, 7 ou 14 jours. Pour le coup, à la fin du test, moi le sentiment que j'avais, c'est shut up and take my money, quoi. Tu vois, c'est vas-y, okay. je te donne mon argent, tu le prends parce que c'est trop bien. Et ouais. Donc non, ça marche plutôt bien. Et la nouvelle fonctionnalité, c'est justement l'ajout soit d'une page internet, soit d'un document Word ou tout ça. Et il va analyser l'intérieur du document pour répondre à ta question et tout.
D'accord.
Très puissant.
Pas mal.
Et dernier outil IA, pareil, ouais. Qui s'appelle Upscale, qui est alors un service cloud, mais aussi une application desktop qui va nous permettre en fait de récupérer des images qui ont une mauvaise définition. Et en fait, ça va utiliser des modèles IA pour affiner et agrandir l'image sans pour autant détruire la qualité intrinsèque de l'image. Et c'est plutôt bluffant. Par contre, ça fait mouliner l'ordi, c'est clair.
Ouais,
ça fait vraiment mouliner l'ordi. Par contre, le résultat est ultra, ultra bluffant. Et
les exemples qu'ils donnent, là, c'est assez bluffant. T'as un truc tout pixelisé, ça devient...
Ouais, alors, tu vois, moi... Bah, en fait, c'est exactement le sentiment que j'avais. Je dis, ouais, les gars, tu vois, c'est bluffé, quoi. Et pour le coup, tu télécharges, tu lui donnes une qualité pourrie, ça mouline, tu dis, ouais, bon, ça prend du temps. Et en fait, à la fin, tu dis, non, en fait, non, c'est plutôt très, très bien, quoi. Non, non, c'est vraiment bluffant. Pour agrandir des images, la qualité qui sort est vraiment, vraiment hallucinant. J'ai pas testé leur version cloud. Je pense que évidemment c'est payant, mais tu vois, je me dis intégrer ça dans un site, pourquoi pas, quoi. Je sais pas. En tout cas, l'appli desktop, elle est gratuite. Elle est multiplateforme.
Ah ouais.
D'accord. Elle est gratuite et tu utilises ta propre ressource machine.
Free et open source. Ouais.
C'est pour le coup, c'est vraiment, vraiment bien, quoi.
Intéressant.
Donc voilà.
Ok, bah super, on a fait le tour de pas mal d'outils là. Je sais pas si on peut dire aux auditeurs, aux auditrices que si jamais vous avez des outils à nous partager, on fera peut-être un autre épisode pour parler de ces outils là.
Mettez-les en commentaire, ça nous fera super plaisir. Dites-nous aussi si quel outil vous avez découvert ou testé et vous êtes bluffé. Voilà, on vous a présenté nos outils à nous. C'est pas la version absolue et la messe. Il y a plein d'autres outils qui sont super bien. Faites-nous vos retours. Et on est super à l'écoute de ça et toujours curieux de découvrir d'autres logiciels.
Ouais, nickel.
Allez, ciao, à bientôt.
Merci, à plus.
Ciao.
Retrouvez /// sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www./podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.